On continue notre petite étude dans Galates. On est rendu dans Galates, chapitre 5. Ce soir, on va voir les versets de 19 à 21. La semaine passée, on a vu que Dieu veut nous rendre libres, qu'il nous a dit que c'est pour la liberté qu'on était sauvés. Puis comme qu'on a expliqué, on n'est pas libre de pratiquer quelque chose, on est libre du péché. La priorité devant Dieu, c'est qu'on soit pardonné de nos péchés, puis il veut nous rendre libres de nos péchés. Et il veut nous rendre libres de tout ce qui est mauvais produit par notre corps. Parce que notre corps, quand on l'a reçu, quand on est venu au monde, on a reçu un corps que lui, c'est un genre de producteur de péché. Lui en produit de toutes sortes de désobéissances à Dieu. Puis Dieu veut nous donner la victoire dans cela, dans nos vies présentement. On a vu la semaine passée aussi qu'on fait face à deux chemins devant nous. T'as le chemin de la marche par le Saint-Esprit, puis t'as le chemin de marcher selon ta chair. Notre corps, que lui, notre corps, il fait haut des choses qui déplaisent à Dieu. Mais on a le choix de laisser le Saint-Esprit faire mourir les actions de notre corps. Dieu veut nous rendre libres par son Saint-Esprit, par Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Fait que les deux chemins sont devant nous. Puis là, on est rendu dans Galates 5, 19. Paul, il va nous donner une liste non complète là, des œuvres de la chair. Il nous donne des exemples, des œuvres de la chair. Ce que Dieu veut nous délivrer, en fin de compte, parce que Dieu veut nous rendre libres de notre chair, puis il donne, on va voir ce soir quelques péchés qui sont mentionnés, qui sont des œuvres de notre chair. Dans Galates 5, 19, ça nous dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça, en voulant dire que c'est manifeste, ça veut dire que c'est évident. C'est apparent. Les œuvres de la chair, c'est apparent. Quand quelqu'un marche charnellement, c'est apparent. C'est apparent. C'est évident qu'il marche selon la chair. Il manifeste quelque chose qui est charnel. Puis c'est ça qu'on va voir, pour en distinguer quelques-uns des points de c'est quoi une vie charnelle devant Dieu. On va faire un survol de ces quelques points-là des œuvres de la chair. Puis là, il continue dans sa phrase en disant que les œuvres de la chair, c'est manifeste. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Là, on va y regarder un par un, puis on va juste s'arrêter à les nommer, puis à regarder ce que le dictionnaire biblique dit de chacun de ces points-là. Quand on parle de l'impudicité, ça, c'est un œuvre de la chair. L'impudicité, c'est des rapports sexuels illicites. Ça veut dire avoir des rapports sexuels avec quelqu'un puis qu'on n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels avec, c'est de l'impudicité. Que ça soit appelé de l'adultère ou de la fornication ou de l'homosexualité ou être lesbienne ou un rapport sexuel avec des animaux, etc., c'est tout de l'impudicité. Des rapports sexuels avec des parents proches, c'est encore de l'impudicité. Des rapports sexuels avec quelqu'un qui est divorcé, c'est de l'impudicité. Puis tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. C'est une des œuvres de la chair. C'est une des choses que Dieu, quand il voit quelqu'un faire cela, il voit qu'il marche selon la chair. Parce que si on marche par l'esprit, le Saint-Esprit va nous détacher de ces œuvres-là. Il va nous faire mourir ces choses-là dans notre vie, puis on voudra plus les pratiquer. On va avoir même de l'aversion. Parce qu'il y a même des passages qui nous parlent d'avoir de la haine du péché. Mais c'est ça. Quand que tu marches par l'esprit, t'en viens à avoir une haine. Non seulement ça t'intéresse plus ces affaires-là, mais tu veux t'en débarrasser, tu veux que ça sorte de ta vie, tu haïs ça. Puis si tu tombes dans quelque chose, tu demandes pardon, puis tu veux que ça arrête dans ta vie. C'est ça la marche par l'esprit. Fait que là, on parle de l'impudicité, parle aussi de l'impureté. L'impureté, c'est au sens propre, là, c'est malpropreté. Impureté, c'est des choses impures. Comme qu'on voit dans la Bible que les esprits sont appelés des esprits impurs. Les esprits impurs, c'est qui rendent les gens impurs. Les esprits impurs injectent des pensées impures. Puis ils amènent les gens à vivre des choses impures, des choses qui sont sales, qui sont pas net devant Dieu. Que ce soit des choses physiques, malpropreté, ou dans un sens moral, c'est l'impureté des sensuels, des choses impurs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est arrêté au niveau des pratiques sexuelles impures dans la société. Mais les chrétiens sont appelés à fuir ces choses-là, c'est des œuvres de la chair. Quand on parle de la luxure, de la corruption, de la dépravation, des motifs impurs, quand quelqu'un, il y a des gens qui font des choses impures, son cœur n'est pas droit devant Dieu, il cherche les crocheries, mais les choses impures, ça fait partie des œuvres de la chair. Quand on est tenté dans ces choses-là, c'est notre chair qui est tentée là-dedans, mais si on marche par l'esprit, il va faire mourir les actions de notre corps. On continue avec la dissolution. La dissolution, dans le dictionnaire biblique, ça dit, c'est de la luxure sans bride. C'est des gens qui sont pas capables de s'arrêter, qui en veulent du sexe, là, puis avec soit, ils pensent qu'à ça, puis c'est une obsession dans leur esprit. Ça parle de excès, des excès. Être licencieux. Ça, je rappelle aller chercher dans le dictionnaire parce que c'est un mot qu'on n'utilise jamais. La lascivité, l'extravagance, la libertinage, l'impudence ou de l'insolence, c'est tout le même sens. Quand on pratique une vie de péché sans retenue, sans borne, une vie de débauche sexuelle ou quoi que ce soit, ça fait partie des œuvres de la chair. Paul y continue au verset 20, dans Galates 5:20. Là, il parle de l'idolâtrie. Mais ça, l'idolâtrie, comme on en parle assez régulièrement, c'est un culte aux faux dieux, premièrement. Quand on rend des cultes aux faux dieux, c'est un œuvre de la chair. Parce qu'on marchera par le Saint-Esprit, on sera porté à parler à Dieu par notre esprit. Parce qu'on sait que Dieu est esprit, on sait que la Bible nous dit de s'adresser à Dieu qui est esprit, puis on adorera le Père en esprit, mais quand tu marches dans la chair, t'es porté à vouloir un objet, puis prier un objet, une statue, une photo, une image, des objets comme des médailles, on met notre accent sur autre chose, on met l'accent sur des choses matérielles, prier une vache, prier un animal, prier un oiseau, prier un poisson, prier la lune, prier les étoiles, prier les autres, les saints qui ont les églises catholiques et autres qui ont inventé d'autres intermédiaires que Jésus, ils prient d'autres choses, ça c'est de l'idolâtrie. Puis ça fait partie des œuvres de la chair. Les exploits sacrificatoires tenus en honneur de faux dieux, ça avec, parce qu'il y en a qui faisaient encore des sacrifices à des faux dieux, mais l'idolâtrie va jusqu'à l'avarice, aimer l'argent, puis aimer les biens, être avare, ça c'est un culte à Mammon qui est un autre dieu, fait que la Bible en parle encore de ce dieu-là, que c'est très très puissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en amour avec l'argent, puis ils ne vivent que pour l'argent. Qu'il y en a d'autres qui vivent pour les faux dieux, mais c'est par ignorance ou par convoitise de leur chair, parce que la chair, elle a comme le besoin d'être satisfaite avec quand tu as beaucoup d'argent dans ton compte, là, tu sens confiance, tu mets ta confiance dans l'argent plutôt que mettre ta confiance en Dieu. On continue dans Galates 5:20, il parle après ça de la magie, qui est une œuvre de la chair. Le mot magique là, c'est le mot en français. Il y en a deux sens de mots qui ont été écrits magie dans le Nouveau Testament, traduit dans notre langue à nous. Il y en a un, c'est magios, qui est là, vraiment au niveau de la magie puis des séances occultes puis tout ça. Tandis que le mot magie dans ce verset-là, ça n'aurait pas dû être magie qui est écrit là. Le mot grec, c'est pharmakeia. Puis le sens du mot grec du dictionnaire biblique, c'est l'utilisation ou l'administration de drogue. S'il y en a qui pensent que la drogue, c'est pas écrit dans la Bible, c'est faux. C'est écrit, c'est ce mot-là qui est là, puis il parle de drogue comme étant une œuvre de la chair. Ceux qui consomment des drogues, comme qu'on va voir dans les œuvres de la chair plus tard, dans les autres, il parle de l'alcool, les ivrogneries. Ça fait partie des œuvres de la chair, mais la drogue, les drogues, consommer des drogues, ça fait partie des œuvres de la chair. Pharmakeia, qui est là, le mot-là, c'est le mot qui a été traduit pour nous, pharmacie, drugstore. C'est des endroits où tu peux te procurer certains médicaments, les médicaments, mais les médicaments pour prise médicale, c'est pas défendu de soigner. On parle de drogue pour des pratiques de changer les atmosphères puis du buzz, ou même ça allait plus loin que les drogues fortes, de communiquer avec l'au-delà, avec les morts, communiquer avec des démons, par les sorciers, les chamans, pour ça qu'ils ont écrit magie, mais c'était pas, ça aurait dû être comme des pratiques magiques, de prendre des drogues pour pouvoir être en contact avec le monde obscur. Le mot que là, pharmakeia, a le sens aussi d'empoisonnement, intoxication. Puis en réalité, consommer des drogues, c'est de l'empoisonnement, c'est de l'intoxication, ça fait partie des œuvres de la chair, puis Dieu veut pas qu'on marche selon la chair, il veut qu'on marche selon l'esprit, puis il veut nous rendre libres. Fait que si quelqu'un est tombé esclave des drogues, Dieu peut libérer, Dieu veut libérer, il veut qu'on soit libéré, il veut nous libérer. Il veut pas qu'on demeure esclave de ces pratiques-là. Puis là, ça rentre aussi dans le sens de la sorcellerie, des arts magiques, souvent trouvant relation avec de l'idolâtrie, où c'est stimulé par les drogues. Puis là, c'est ça qui fait que les drogues, dans tous ces sens, ça nous parle d'œuvre la chair. On continue par la suite, après la magie. Ça nous dit les inimitiés. Les inimitiés, c'est des œuvres de la chair. Quand on parle d'être inimitié, c'est ennemi. Avoir des ennemis. Considérer des gens comme des ennemis. Avoir de la haine. Puis si on vit dans ce sentiment-là de pas aimer les gens, sachant que la marche par l'esprit, c'est l'amour de ton prochain. Mais quand on marche selon la chair, ça nous amène à marcher dans la haine de notre prochain. Ça fait partie des œuvres de la chair que Dieu veut nous délivrer. Dieu veut pas que les chrétiens marchent dans la haine. La Bible a dit que si un chrétien marche dans la haine, il marche encore dans les ténèbres, que la Bible nous dit. Puis il dit que le Saint-Esprit est même pas là. Ensuite, on continue après la haine, les querelles. Les querelles sont aussi des œuvres de la chair. Quand on chicane avec les autres, on passe notre temps à chicaner avec les autres, être en querelle avec les autres, c'est des œuvres de la chair. Puis ça, c'est que ce soit dans des controverses, dans des obstinations, des contestations, avoir des différends avec les autres, des disputes, des luttes, des querelles, c'est des œuvres de la chair. Dieu veut pas que les chrétiens soient en querelle avec les autres. En commençant aussi dans notre famille, de pas être en querelle puis dans les disputes avec notre conjoint, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Comme la Bible a dit, autant que ça dépend de nous, d'être en paix avec tous les hommes. C'est important de réaliser cela, comment qu'un chrétien, pour être un bon témoignage, il doit fuir les œuvres de la chair, sous toutes ses formes. Ensuite, il continue les jalousies comme œuvre de la chair. Ça, c'est les excitations qu'on a, l'agitation de l'esprit, une ardeur ou une ferveur de l'esprit. Avoir un zèle, une ardeur dans l'embrasement, la poursuite de certaines choses. Parce qu'on convoite, on désire des choses, on est jaloux des autres. Puis là, on vit dans une ambiance, quand on est jaloux, ça nous amène à être en division, puis en chicane avec les autres, puis à désirer aussi des fois ce qu'ils ont. Bon, tout ça, ça fait encore partie des œuvres de la chair que Dieu veut nous rendre libres. On continue avec cela, que la jalousie, c'est une ardeur en faveur d'une personne ou d'une autre chose. Peu importe le motif, pourquoi qu'on a une fixation sur l'autre, on pense à l'autre, puis on voudrait peut-être ce que l'autre a. En tout cas, il y a une rivalité qui se produit, puis il y a de la contestation. On continue avec des animosités qui sont des œuvres de la chair aussi. Les animosités, c'est des passions, de la colère, de la chaleur, être bouillant de colère, continuel, un excès de rage. Si on vit dans des situations de même, on marche selon la chair. C'est des réactions charnelles, c'est pas des réactions remplies de l'esprit. Ça a le sens aussi de rougeur, ardeur, le vin de la passion, le vin qui enflamme, qui conduit le buveur à la folie ou à la mort par sa force. Ça, c'est les définitions du dictionnaire. Ça, c'est quand on arrive d'un état qu'on est tellement pogné à vouloir faire du mal, qu'on attaque les autres, puis on est enragé, puis on est en colère, puis là, c'est hors de contrôle. Mais tout cela, c'est des œuvres de la chair, puis Dieu nous appelle à sortir de cela. On continue avec les disputes. C'est encore une œuvre de la chair. Les disputes, c'est une propagande. Le mot que là, c'est pas une dispute nécessairement en chicane avec les autres. On l'a vu dans d'autres points. Le mot grec que là, il veut dire une propagande électorale ou une fascination pour une fonction. Apparemment, dans le Nouveau Testament, c'est le désir de se proposer, d'être un participant, un partisan. Ça, c'est d'avoir des disputes. Mais en réalité, ça rejoint l'idée du mot sec. C'est comme quasiment vouloir être à part. Mais quand tu veux trop être partisan, même au niveau des élections, ça devient au niveau du dispute que là. Un esprit partisan, même un esprit querelleur. Combien de fois qu'on voit les partisans, mettons, d'un parti québécois, ou partisans d'une doctrine, puis qu'on est prêt à se pogner avec tout le monde parce qu'on est pogné sur cette doctrine-là. On en parle, par exemple, la terre plate, puis d'être pogné là-dessus, puis vouloir défendre notre point, puis se battre avec tout le monde, puis plus être capable de vivre avec les autres parce qu'on est trop stiqué, on est trop pogné sur notre fixation. Mais c'est le sens du mot dispute que là. Ce mot là, il y a une petite explication dans le dictionnaire. Ce mot ne se trouve avant les temps du Nouveau Testament que dans Aristote, où il dénote une poursuite égoïste d'une fonction politique par des moyens injustes. Paul recommande instamment d'être un dans l'esprit de Christ et ne se mettant pas en avant ou en n'étant pas égoïste. C'est quand tu veux t'impliquer trop, là, tu veux trop être le premier, puis là, il donne d'autres versets, puis là, ça fait partie des œuvres de la chair. Les divisions, quand le monde crée des divisions, la dissension, des divisions, quand le monde cherche, quand il voit deux personnes ensemble, il cherche à les faire la chicane entre les deux. Et où il y a deux églises, ils cherchent la chicane entre deux églises. Ils ont deux groupes de hockey, ils vont chercher à faire des... Quand il y a des groupes différents, même si c'est pour le plaisir, il y en a que le trip, ils sont pas contents de voir les autres qui sont heureux ensemble. Ils vont essayer de faire du trouble pour essayer de les diviser. Mais ça fait partie encore des œuvres de la chair. Les sectes, ça fait encore partie des œuvres de la chair. Dans le sens qui est écrit dans le grec, c'est l'action de prendre, capturer, par exemple, prendre une ville, ou choisir, dans l'autre sens, de faire un choix, choisir ce qui est choisi. Que ce soit un corps d'hommes suivant leurs propres principes, ça peut devenir des sectes ou un parti pris. Quand tu as tes principes puis tu veux pas te garder le contact avec les autres, ton groupe devient une secte. Quand que tu penses que juste toi qui as raison, puis tous les autres ont tort, mais t'es devenu une secte. Parce que des sectes, il en a existé plusieurs. Le peuple juif, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Bon, mais ça, c'était des sectes. C'était des groupes. Puis quand ils sont en groupe, ils s'accordent plus avec les autres groupes. C'est devenu des sectes. Les chrétiens, là, même s'ils ont des divergences d'opinion, ils doivent garder l'unité de l'esprit, qu'on est un corps de Christ sur toute la planète. Tous ceux qui sont sauvés font partie du corps de Christ. On se divise pas avec les autres chrétiens. Mais il y en a qui sont pas capables de vivre ça comme vous. Puis il faut toujours qu'ils cherchent à se diviser, puis à créer la division, puis à créer le trouble, puis à marcher à part des autres. Mais ça fait partie des œuvres de la chair, parce que ceux dont tu marches par le Saint-Esprit, c'est rassembler. Jésus voulait rassembler. Jésus, il dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Si tu marches par le Saint-Esprit, Dieu veut rassembler, il veut bâtir son Église. Mettons, tu amènes un homme au Seigneur, puis le gars vit proche d'une autre Église, plus proche, mais faut pas avoir peur de le laisser aller à l'autre Église qui est plus proche. On travaille pas juste pour notre paroisse, on n'est pas une secte. C'est ça qui est l'idée. Là, Paul, il continue dans Galates 5:21, en continuant d'autres points qui sont des œuvres de la chair. L'envie, ça c'est porter envier. Envier, c'est-à-dire inciter par envie. Tu veux avoir ce que l'autre a. Ben c'est un peu dans la jalousie, mais c'est envie, c'est que tu envies les autres. Tu envies leur situation, tu envies ce qu'ils ont, tu envies leur joie, leur bonheur, tu envies leur famille, envier, c'est tu voudrais avoir ce que l'autre a. Parce que toi, tu l'as pas, puis tu convoites quasiment ce que l'autre a. Ça fait partie d'un œuvre de la chair. Le contraire de ça, on devrait se réjouir de ce que les autres ont, puis d'être heureux de ce qu'ils ont, puis de chercher le bonheur, chercher le bonheur des autres, au lieu de chercher à tout avoir pour nous. On arrive dans une autre partie on continue avec l'ivrognerie. Ça parle encore d'intoxication, mais par l'ivresse. Tout à l'heure, on parlait d'intoxication par des drogues. Là, on parle d'intoxication par l'ivresse. On n'est pas capable de boire sociablement, prendre un verre, puis en mangeant, tu as le droit. Jésus en a bu du vin. C'est pas mal. Mais l'ivresse, c'est de chercher à se saouler, chercher à s'enivrer. Il y a d'autres versets qui disent « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. » C'est de la débauche, Yves. Puis ça, Dieu nous appelle à être libérés de ces emprises-là. Être capable de boire une bière ou deux, puis c'est tout. Là, tu vois, même toi, dans une soirée, tu meurs pas, tu n'étais pas Yves, mais tu bois sociablement. Mais tu peux arriver à être sobre, ça sera encore mieux. Si tu peux arriver à plus n'en prendre partout, tu peux. Mais c'est pas défendu de prendre un verre sociablement. Mais l'ivresse est condamnée. C'est des œuvres de la chair. Un autre, c'est les excès de table et les choses semblables. Là, quand on parle d'excès de table, c'est pas à cause qu'on a mangé à notre faim. C'est pas ça un excès de table. C'est quand on parle d'orgie, de ripaille ou de beuverie. Les excès de table, c'est parce que dans ce temps-là, ils faisaient des gros parties, puis ça buvait, ça mangeait, ça allait vomir pour aller en manger d'autres. C'était une orgie. Puis après ça, ça revirait à d'autres choses. Puis ça, dans ce temps-là, c'était populaire. Il y en a encore aujourd'hui. Mais c'est des processions nocturnes, c'était des rituels de gens à moitié ivres, à l'esprit folâtre après un souper. C'est comme s'il parle du party qu'il y avait après, quand tout le monde il a sa brosse, puis que tout le monde il tripe, là, puis il déconne. Puis ça devient comme des excès de table, mais ce qui suit par après, c'est l'orgie qu'il va avoir en arrière de ça. Ça parle de les gens, ils paradaient dans les rues avec des torches puis de la musique en l'honneur de Bacchus ou en quelque autre divinité. Les gens, ils buvaient, ils mangeaient, au bout, après ça, il allait chanter dans les rues en l'honneur de faux dieux. Mais l'excès de table, ça va jusqu'à là. Là, il parle de par conséquent, le mot est généralement utilisé pour les fêtes et les buveries prolongées tard dans la nuit, puis qui se terminent en orgie. C'est là qu'est le sens du mot excès de table. On parle pas juste de manger une assiette à sa faim, là, on parle de tout ce qui va avec le gros party, les excès suite à après avoir mangé. En résumé, le Paul nous a fait un petit survol des œuvres de la chair. Il nous a parlé de trois péchés sur la sensualité, il nous a sur le sexe. Il y a deux péchés spirituels puis de fausses religions. Il y a 9 péchés contre notre prochain. Puis 2 péchés d'intempérance qui ont des péchés de maîtrise de soi. Peu importe les péchés qui sont énumérés là-dedans, on sait que ça les énumère pas tous. Ça, c'est des œuvres qui découlent d'un gars qui marche selon la chair. Un chrétien qui marche par l'esprit sera dégagé des œuvres de sa chair. Parce que quand tu marches par l'esprit, tu veux être rempli du Saint-Esprit. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir tombé dans une affaire au début de ta vie chrétienne, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'enlever ça, de faire mourir les actions de ton corps. Puis il va le faire. Ça va arrêter, ça va disparaître, il va te rendre libre. Mais il y a aussi d'autres dépendances qu'on n'a pas nommées, là, comme la dépendance de la cigarette ou d'autres choses. Dieu peut rendre libre de même de... Parce que la cigarette, veut pas, ils mettent tellement de produits chimiques là-dedans que ça rend le monde dépendant. C'est devenu une drogue, la cigarette. C'est comme dans les drogues. C'est un œuf de la chair, c'est pas le Saint-Esprit. Dieu veut nous rendre libre de tout ça. Puis il est capable de le faire. Celui qui est vaincu par sa chair... et qui ne veut pas se repentir, la Bible a dit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Là, c'est fort ce que Paul dit dans Galates 5:21. Il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu es chrétien, faut que tu combattes. Tu peux pas te laisser aller à pratiquer un de ces péchés-là puis penser que c'est pas grave. Dieu veut nous délivrer. Il dit, c'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à devenir libres. Ça veut dire que si on veut pas devenir libre, ça veut dire on veut continuer à pratiquer ces affaires-là. On demande jamais pardon. On demande pas au Seigneur de nous changer. Mais on va rester dedans, mais on rentrera pas dans la présence de Dieu après. La vie chrétienne, c'est un combat contre les œuvres de notre chair. Comme je disais tout à l'heure au début de la réunion, il y a vraiment deux chemins devant nous. Celui qui veut suivre Jésus suivra le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit va nous amener à être libérés de tout cela. On va demander l'aide au Seigneur, puis il va faire mourir les actions de notre corps. Dans Romains 8:13, c'est le dernier verset pour ce soir, ça nous dit, « Si vous vivez selon la chair, comme qu'on vient de voir les œuvres de la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Faut marcher par l'esprit pour être conduit par l'esprit, puis c'est là qu'on démontre qu'on est des enfants de Dieu. Ça va nous donner de l'assurance pour le jour pour le temps qu'il nous reste à vivre jusqu'à temps qu'on soit rentré. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de ce que tu veux faire comme changement dans nos vies. Tu veux nous rendre libres de tout péché de notre chair. Seigneur, on te donne tout, on donne notre corps, on s'offre en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. On se donne à toi pour que tu viennes nous changer, nous transformer, pour que tu fasses mourir les actions de notre corps, pour qu'on vive dans la vie de l'esprit, dans la liberté que tu veux nous donner. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi pour te faire confiance. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.